Il y a quelques années, on les tapait soigneusement sur nos claviers, alors désormais Google nous y redirige bien souvent, ils paraissent anodins, mais en fait ils représentent un vrai enjeu économique, parfois politique, voire géopolitique, les noms de domaine. Mais au fond, c'est quoi un nom de domaine? Comment ça marche? Qui s'en occupe vraiment? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui va vous faire comprendre le numérique, ou au moins, on l'espère, vous convaincre qu'il faut comprendre le numérique. Bonjour Pierre Bonis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Métadonnées. Alors vous êtes directeur général de l'Association française pour le nommage Internet en coopération. C'est très très compliqué comme nom. L'AFNIC, en fait, si je résume, vous êtes monsieur nom de domaine en France. C'est vous qui gérez les noms de domaine en France.
C'est nous qui gérons les noms de domaine français.
Français, ok. Alors juste, on va revenir au basique. C'est quoi un nom de domaine pour ceux qui nous écoutent et qui n'y connaissent rien?
Un nom de domaine, c'est une adresse à laquelle on peut être jointe sur Internet.
Alors, ça appartient à qui les noms de domaine en fait? Qui décide de quoi? Parce que c'est hyper flou. Qui un jour a décidé qu'on allait créer un .com, un .fr? Qui décide, je sais pas moi, on dit j'achète un nom de domaine, mais je l'achète à qui? Il y a un propriétaire qui a tous les noms de domaine sur Terre?
Alors non, heureusement d'ailleurs, mais alors qui? C'est un monsieur qui s'appelle John Postel.
Ok, donc c'est vraiment une personne.
C'est vraiment une personne qui a écrit ce qu'on appelle une RFC, c'est-à-dire une forme de règle de protocole informatique dans les années 70-80.
Au début du web.
Bien avant le web, même au début d'Internet, finalement. Oui. Le .fr, pour vous donner une idée, ça existe depuis 86.
Ok, oui, donc c'est vieux.
Alors, c'était pas très connu en 86, mais... Et ce monsieur, donc, il a écrit des règles et il a dit... faire des catégories de noms de domaine. Je vais dire que le .com, c'est pour faire du commerce, par exemple. Il a écrit ça.
.com, c'est commerce.
Théoriquement,
à la base. Okay.
Je vais dire que le .net, c'est pour des infrastructures. Que
d'accord.
Le .org, c'est pour des associations.
Organisations.
Voilà. Et puis, c'est normal que tout le monde puisse avoir un point quelque chose dans son pays. Je vais aller voir une table de code pays qui existe dans une autre organisation. Hein, et puis, je vais importer cette table et je vais dire, pour la France, c'est .fr.
Il avait quelle légitimité
Pas plus personne. Que celle d'avoir inventé le protocole.
C'est lui, d'ailleurs, à l'époque... C'est lui qui a inventé le protocole, voilà. Donc c'est lui qui a décidé comment ça allait se passer.
Et il aurait pu rester tout seul dans son bureau et personne n'aurait... Il aurait pu se passer que personne ne l'utilise, son protocole. Il se trouve que là, aujourd'hui, il y a à peu près 5 milliards de personnes qui l'utilisent. Donc, du coup, cette description qu'on peut trouver sur Internet et qui est vraiment une description de protocole informatique fait quasiment loi, de fait, depuis cette époque-là. Et puis, pour la petite histoire, à qui il a délégué la gestion, finalement?
Parce qu'il est plus, aujourd'hui, il ne s'en occupe pas.
Il ne s'en occupe plus, il est décédé, John Postel. Après, à qui il en a délégué la gestion? À des gens qu'il connaissait. Et donc, par exemple, pour le .fr, il avait des amis qui travaillaient à l'Institut National de Recherche en Informatique, à l'INRIA, qui est au fait l'ancêtre, enfin, qui nous a incubés à l'AFNIC avant qu'on prenne notre indépendance. Il connaissait quelqu'un, il a dit, dis donc, toi, je te connais, t'es sérieux, tu t'occupes d'informatique, est-ce que tu veux pas t'occuper du .fr?
Juste en gros, vous nous expliquez qu'à la base, Internet, c'est une bande de potes, quoi.
À peu près.
C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y a une bande de potes qui a créé un protocole et qui s'est dit, dans chaque pays, on va utiliser ce protocole, sauf qu'entre-temps, maintenant, il y a toute la planète qui utilise ce protocole, donc ça ne peut plus être géré par une bande de potes.
Tout à fait.
Et alors, du coup, maintenant, qui gère ça?
Alors maintenant, ça se fait de manière décentralisée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est décentralisé. Au niveau des noms de domaine, il y a ce qu'on appelle des registres, et à chaque fois que vous avez des lettres après le point, ce soit fr, com ou shoes, s'il y en a plein maintenant, SNCF, etc., eh bien, vous avez un registre dont le métier est à la fois d'enregistrer les demandes de création de noms de domaine. Donc, c'est finalement une forme de notaire, quelque part, on va dire, et c'est ce que nous faisons à l'AFNIC.
Donc, ça, c'est vous.
Ça, c'est nous. Le registre.
Et il y a des AFNIC dans chaque pays.
Et il y a des AFNIC dans chaque pays, plus ou moins. Et puis il y a des AFNIC qui ne sont pas liés à des pays. Hein. Les registres ne sont pas liés à des pays, puisque précisément, les grandes extensions qu'on dit génériques, com, net, org, etc., ne sont pas liées à un pays. Donc elles sont dans un pays. En général, ce n'est pas difficile à trouver. Elles sont forcément aux États-Unis. Mais elles couvrent le monde entier. Et donc, ce registre-là, son rôle, qui est d'ailleurs décrit hein, dès le début par John Postel, c'est donc ce rôle de notaire, à qui ça appartient, pour combien de temps. Et puis, un rôle plus technique, que j'appellerais un rôle d'aiguilleur, qui est justement de publier cette information sur des serveurs de manière à ce que vous, quand vous utilisez Internet et que vous tapez un nom de domaine, disons un nom de domaine ou même parfois une requête dans un moteur de recherche, il y ait des serveurs dans le monde entier qui traduisent votre demande et vous dirigent vers le serveur d'hébergement qui va héberger soit un service web, c'est-à-dire un site Internet, soit d'autres types de services qu'on oublie souvent, hein, par exemple les emails, c'est d'autres types de services, c'est d'autres protocoles, mais qui sont eux aussi liés au nom de domaine. Donc voilà, le registre, c'est le notaire et l'aiguilleur, et c'est aussi, dans un certain nombre de cas de figure, ce qui est le cas pour la FNIC et le .fr, l'organisme qui va gérer des conflits entre les utilisateurs de noms de domaine et qui va édicter des règles d'utilisation de ces noms de domaine en disant, par exemple, pour le .fr, qu'il faut habiter sur le territoire de l'Union européenne pour en avoir un, par exemple.
Juste pour avoir une idée, si je veux un nom de domaine, ça coûte combien d'ailleurs ?
Alors ça va dépendre beaucoup de qui vous le vend. Je suis désolé de cette... sortie d'usine, entre guillemets, c'est 4,56€ hors taxe.
L'année ?
Par an.
Et ça, ça va chez vous pour vos frais de fonctionnement.
C'est-à-dire que quand vous allez acheter un nom de domaine, c'est jamais à nous que vous allez l'acheter en direct.
D'accord.
Puisqu'il y a une séparation. Il y a des bureaux d'enregistrement qui vendent les noms de domaine qu'on va appeler, globalement, c'est les hébergeurs que vous connaissez, qui peuvent être Orange, OVH, Gandhi, GoDaddy, enfin toute une
donc
série
ça, c'est, de... Ça, c'est les
donc,
hébergeurs.
C'est eux qui vous vendent.
C'est eux qui ont les serveurs sur lesquels on va mettre notre site.
Alors, oui, la plupart du temps. Mais à la limite, ils pourraient même ne pas l'avoir. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont vous vendre le nom de domaine. Vous pouvez acheter un nom de domaine pour ne rien en faire. C'est un peu dommage, mais enfin, c'est, à la limite, vous pouvez, si vous voulez.
Alors, juste,
et donc, eux,
après,
ils vont vous le vendre, soit au prix où nous, on les vend, c'est-à-dire 4,56€ hors taxe, parce qu'ils vont vous vendre d'autres choses à côté, justement de l'hébergement, du site,
oui, donc c'est un prix
etc.
D'appel. C'est un
soit d'appel. Ils vont valoriser le nom de domaine lui-même, c'est souvent le cas d'ailleurs des spécialistes de la propriété intellectuelle qui vont vous dire il faut réserver ces noms de domaine, c'est important pour protéger telle marque, etc., qui vont vous les vendre plus cher, c'est les mêmes, hein, mais qui vont vous les vendre 40€ ou 50€, parce que derrière, ils vont avoir la valeur ajoutée qu'ils vont vous apporter, c'est de la surveillance de marque, etc. Donc, ça dépend complètement des prestataires que vous prenez. Globalement, pour la FNIC, c'est 4,56€ par nom de domaine et par an. Et on est une association à but non lucratif, donc au fait, on ne verse pas de dividendes. Si on prend cet argent-là, c'est pour pouvoir réinvestir dans les infrastructures du .fr. Et le surplus, d'ailleurs, c'est reversé à une fondation qui, elle, fait des actions avec la Fondation de France d'inclusion numérique sur le territoire.
D'accord. Dans la FNIC, c'est association.
Oui.
Ce n'est pas une entreprise commerciale.
C'est une association qui a une concession de service public. C'est-à-dire que tous les 5 à 10 ans, on est remis en concurrence par l'État. Bon, jusqu'ici, tous les 5 à 10 ans, on gagne, donc on est super contents. L'État fait partie de notre association, mais il n'y a pas que l'État. Il y a justement du secteur privé, des utilisateurs, des académiques, des avocats. C'est une association ouverte, hein, vous pouvez adhérer demain si vous voulez. Donc, ces prix de nom de domaine, ils servent au fait à financer l'infrastructure du registre.
Il y a quelques années, on parlait pas mal d'un truc qui s'appelle du cyber-squatting. Mmh. En gros, pour faire simple, c'était je vais acheter un nom de domaine pour emmerder une entreprise. Puis ensuite, comme ça, je vais essayer de lui vendre très, 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 très cher. Ça existe toujours, ça ? Est-ce que c'est encore pratiqué ? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore... Alors, c'était surtout au début d'Internet, parce qu'on voyait venir... C'était un peu le Far West. Et puis finalement, dans les années 90, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des grandes boîtes qui ne s'étaient pas intéressés à Internet au tout début. Et puis finalement, on achetait leur nom de domaine et on s'est dit, un jour, ils vont devoir nous l'acheter parce que c'est à nous. Ça existe encore, ça ?
Alors, au niveau mondial, ça existe, mais beaucoup moins.
Ouais.
Au niveau FR, en fait, ça n'a jamais vraiment existé. Parce qu'à l'époque où il y avait du Far West, justement, les règles d'enregistrement du .fr étaient beaucoup, beaucoup plus strictes qu'aujourd'hui. Et il fallait, si vous aviez une entreprise, que vous donniez votre cabis à la FNIC, sinon vous n'aviez pas le nom de domaine. Donc, d'accord, le cybersquatting, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'enregistrer un .fr. Néanmoins, dans la loi en France, si vous achetez un nom de domaine dans le but de le revendre à quelqu'un qui a un droit dessus, c'est interdit. Alors évidemment, il y en a qui passent entre les mailles du filet, mais ça me permet de dire à toutes les personnes qui verraient le nom de leur entreprise enregistré en .fr et qui auraient quelqu'un qui leur dirait « je te le revends à 20 000 $ si tu veux ».
On peut se protéger contre ça.
Ah bah, il suffit de nous appeler. Et là, pour 250 €, on vous fait une procédure de résolution de litige qui dure 2 mois et vous le récupérez sans aucun problème. Enfin, je veux dire, 2 mois parce qu'il faut qu'on demande à la personne en face de se défendre. Elle peut dire bah « oui, mais moi, je suis désolé, j'ai aussi enregistré cette marque dans une autre classe, donc j'ai le droit, etc. Ouais. » Mais si c'est du pur cyber-squatting, il n'y a strictement aucun problème. On fait plusieurs centaines de résolutions de litiges par an. Et à chaque fois, la personne qui s'est fait voler quelque part son nom de domaine pour qu'on lui revende, le récupère gratuitement.
Donc vous pouvez en fait retirer un nom de domaine à quelqu'un.
Ah oui, on peut le faire et on le fait quasiment toutes les semaines.
Et au niveau mondial, du coup, qui s'occupe des noms de domaine? Est-ce que tout ça, c'est supervisé au niveau mondial? On parle beaucoup de l'ICANN.
De l'ICANN, oui, tout
alors,
à fait.
Ça, voilà, expliquez-nous un peu ce que c'est.
Alors, l'ICANN, il y a deux dimensions. Il y a une dimension, effectivement, de régulateur. Mais alors, il nous régule pas, nous. Il régule que les grandes extensions mondiales, comme Net, Org, etc. Et alors, pour ces grandes extensions mondiales, ils édictent des règles qui sont édictées, comme nous, on édicte les règles du .fr, c'est-à-dire en prenant en compte l'avis de toutes les parties prenantes, etc. Et donc, ils créent des contrats qui, après, sont des contrats qui obligent ces extensions. Donc, cette partie-là, elle ne concerne que les génériques. Elle ne concerne pas les noms de domaine pays, elle ne concerne pas le .fr. Nous, on est totalement indépendants. Notre régulation, c'est la loi française.
D'accord.
Et puis, il y a une autre dimension dont on dépend tous, plus ou moins, qui est la dimension purement technique, on va dire, de gestion de la racine du système des noms de domaine.
C'est-à-dire tout brancher ensemble, quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, ce que nous faisons en France, avec le .fr, la racine du système, Yana, ça s'appelle Yana, le fait pour les extensions. En d'autres termes, si on reprend BFM TV, alors c'est dommage, c'est du .com, alors
BFMTV.fr.
Disons BFMTV.fr. Si on prend BFMTV.fr, si vous voulez aller sur le site de BFMTV.fr, vous allez passer par les serveurs de l'AFNIC qui vont dire BFMTV.fr, c'est là-bas.
Okay.
Et qui vont vous diriger vers ça. Mais avant cela, en fait, vous allez passer par la racine, théoriquement, hein, et la question que vous allez poser, que votre machine va poser, c'est où est le .fr ?
On commence d'abord.
On commence par la fin. Voilà. On commence par la fin.
C'est-à-dire qu'on dit d'abord chercher parmi les .fr, et puis ensuite parmi les .fr, je veux BFM TV.
Voilà. D'accord. Et donc, la première question que vous posez, c'est où est le .fr ? Qui c'est qui le gère ?
Et oui, c'est plus rapide.
La racine de l'Internet va dire c'est l'AFNIC qui le gère. Et après, vous allez interroger l'AFNIC qui va vous dire « et BFM TV, c'est là-bas ». Donc, vous voyez bien que la racine, c'est le même principe que le registre, sauf qu'au lieu d'avoir des noms de domaine complets dans la racine, vous n'avez que les extensions à droite qui disent « FR, c'est l'AFNIC »,« DE, c'est DENIC », etc. etc., etc. Et donc, cette gestion-là, qui n'est pas très compliquée techniquement, hein, parce que c'est finalement un fichier.
On dit juste quel registre faut ouvrir, quoi.
Voilà, c'est ça. Et où il est, ça, c'est une, on va dire, c'est un sous-ensemble de l'ICANN qui le gère, avec des règles de gouvernance qui sont beaucoup plus strictes, et, parce qu'il ne faut pas casser la racine, sinon ça va poser des problèmes. Et donc ça, c'est un rôle de l'ICANN qui est très important, qui est très technique. Et nous, finalement, dans les relations que nous avons avec l'ICANN, c'est surtout sur ce rôle-là, au fait, qu'on interagit, parce que ces adresses, ces fameuses adresses vers lesquelles on va, que ce soit d'ailleurs pour BFMTV.fr ou pour nous-mêmes, elles changent. Vous changez vos serveurs, vous changez vos data centers,
et donc, etc. Les numéros...
Et donc, il faut les mettre à jour.
Oui, c'est-à-dire que le même BFMTV.fr va rediriger un jour vers un numéro, et ce numéro peut changer si on change de serveur.
Bien sûr. Et donc, c'est ça la dynamique de la chose. Hein. C'est là que la comparaison que je faisais au début avec les adresses postales est pas tout à fait exact, parce que vous ne changez pas l'adresse de votre maison tous les 10 jours. Par contre, l'adresse de votre serveur, vous pouvez le changer très souvent parce qu'il peut tomber en panne, parce que vous changez de presta, etc. Donc pour nous, il faut toujours que ça pointe vers le bon numéro, finalement. Et donc, il faut nous informer. On change dans la base et c'est pareil pour la racine de l'Internet.
Alors du coup, j'ai une question parce qu'on parlait de géopolitique. C'est là où je trouve qu'on y vient un peu. Parce que donc il y a cette organisation, l'ICANN, avec cet aiguilleur qui va nous dire « je veux aller sur un site ». Alors c'est quoi ? C'est en France.fr. c'est en Espagne.es. Et ensuite, on va chercher. OK, si c'est en Russie.ru, par exemple, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, parce que l'ICANN, c'est aux États-Unis. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de dépendance? Est-ce que demain, l'ICANN ne va pas dire, tiens, on va sanctionner la Russie, on casse le point RU, on ne redirige plus personne vers le point RU, et la Russie n'est plus joignable?
Alors, c'est une question très importante. Est-ce que c'est possible techniquement? Oui. Est-ce que c'est probable politiquement? Moi, je m'avance un peu en disant non, parce que c'est jamais arrivé. Pourtant, il y a des guerres.
Il y a plein de choses qui ne sont jamais arrivées, qui arrivent.
Mais il y a un truc qui est arrivé quand même depuis l'avènement de l'Internet, c'est les guerres. Je veux dire que ce n'est pas la première fois. Les relations entre les États-Unis, par exemple, et l'Iran ne sont pas au beau fixe depuis une vingtaine d'années.
Non, mais en gros, la question, c'est est-ce que ce n'est pas problématique que tout puisse être décidé aux États-Unis?
Alors, tout n'est pas décidé par les États-Unis. Ça, c'est une première chose. Il y a une réforme de l'ICANN. Mon prédécesseur à la tête de l'AFNIC, Mathieu Veil, avait piloté cette réforme, d'ailleurs, qui a mis en place une coordination ou une supervision de la racine qui n'est plus celle qu'elle était il y a 10 ans, qui était juste une coordination ou une supervision du gouvernement américain. Maintenant, ce n'est pas le gouvernement américain qui le fait. Évidemment, la racine, elle est quelque part.
Ouais, faut bien qu'elle...
je veux dire, tant qu'on ne l'aura pas mis sur Mars, elle sera forcément sur un pays. Mais la supervision, ben, ce n'est pas une supervision du gouvernement. C'est une supervision qui est faite avec plusieurs acteurs. D'ailleurs, même nous, AFNIC, on fait partie d'un groupe qui participe à cette supervision-là. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs types d'acteurs qui soient d'accord pour prendre ce type de décision. Et au fond, la question a été posée au PDG de l'ICANN au début de la guerre d'Ukraine, par le ministre ukrainien de l'information. Et la réponse du PDG de l'ICANN a été de dire « Notre mission est de faire fonctionner Internet. »
Pas de le faire dysfonctionner.
Voilà. Donc, pour le reste, adressez-vous au Conseil de sécurité, etc. Ce n'est pas un problème de morale. Mais nous, si on prend une décision qui coupe l'Internet, quelque part, on est en faute professionnelle. Notre métier, c'est de le faire marcher. Donc, il y a, à ma connaissance, jamais eu de retrait de la racine dans une logique, je dirais, de conflit international, quelle que soit d'ailleurs la validité des arguments des gens qui le demandent. Et aujourd'hui, c'est vrai pour les noms de domaine comme pour les adresses IP, parce que les adresses IP, ça s'attribue aussi. La même demande a été faite par
l'adresse IP, c'est la suite de chiffres.
Voilà, à l'organisme qui attribue les adresses IP, de ne plus attribuer des adresses IP à la Russie.
Le nom de domaine fonctionnerait, mais elle renverrait vers une suite de chiffres qui ne marche
plus. Qui ne marche plus, d'accord. Et puis on ne pourrait plus développer Internet. Et la réponse a été exactement la même de la part de cet organisme qui est à Amsterdam et qui, en plus, là, pour le coup, pour l'attribution de l'adresse IP sur la zone Europe qui va de l'Atlantique à l'Oural, hein, donc qui couvre la Russie, est bien en Europe, donc est dans un pays qui a des sanctions vis-à-vis de la Russie. Et la réponse a été la même. La réponse a été, mais nous, notre boulot, c'est de faire fonctionner Internet. Donc, on continuera à attribuer des adresses IP à la Russie. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soutienne ou qu'on ne soutienne pas le régime, etc. C'est que c'est notre métier.
Il y a une actualité des noms de domaine ces derniers jours, justement. C'est avec le drame de l'assassinat de la petite Lola. Mmh. Il y a un parti, Reconquête, d'Éric Zemmour, qui a été justement très critiqué parce qu'il a acheté des noms de domaine, Manif pour Lola, par exemple, il a été accusé d'avoir préempté ces noms de domaine. Est-ce que si un jour, alors là, c'est un cas très spécifique, mais par exemple, si la famille de Lola vient vous voir et disant, écoutez, non, je ne veux pas qu'un parti politique reprenne ce nom de domaine. Est-ce que vous, à l'AFNIC, vous pouvez dire, OK, je retire le nom de domaine à ce parti?
On peut. Je ne sais pas vous dire si c'est la décision qu'on prendra à la fin, parce que c'est une procédure de résolution de litige. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez ce qu'on appelle un intérêt à agir, c'est-à-dire que c'est votre nom, c'est votre famille, c'est quelque chose qui vous concerne personnellement, il faut bien le dire, hein, il faut que ça vous concerne personnellement. Si vous considérez que c'est scandaleux, par principe, bah écoutez, c'est très bien, mais c'est pas la peine de faire une résolution de litige à l'AFNIC, parce que vous n'avez pas de droit à faire valoir. Mais si vous avez un droit à faire valoir, bah, vous allez ouvrir une procédure de résolution de litige. Je peux pas vous dire ici comment elle se terminera.
Mais en tout cas, c'est possible.
Mais c'est tout à fait possible. Et juste sur ce point-là, là, en l'occurrence, ces enregistrements, ils n'étaient pas anonymes.
Non. Non, parce qu'on a pu les voir, j'ai pu les retrouver par
parce que dans le .fr, si vous êtes une personne morale, vous n'avez pas droit à l'anonymat.
Ah, c'est pour ça.
Voilà.
Donc un parti politique, en fait, ne peut pas enregistrer.
Théoriquement, un parti politique, c'est une association, c'est une organisation, c'est une personne morale. Donc on publie ces données.
Ils n'auraient pas pu le faire discrètement, voilà. On va dire. Pas secrètement, mais discrètement.
Comme d'ailleurs, parti politique ou même entreprise, ça arrive que vous ayez finalement de l'anonymisation, pas forcément pour des raisons de vouloir cacher les choses. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes dans une PME. Vous enregistrez le nom de domaine vous êtes un artisan de votre boulangerie et vous dites à votre fils, parce que vous n'y connaissez pas grand-chose, débrouille-toi, fais-le. Bah, votre fils, il va enregistrer le nom de domaine à son nom, parce que c'est comme ça qu'il fait. Et ce n'est pas pour cacher, mais comme il va l'enregistrer à son nom et que c'est une personne physique, ça sera anonyme. Voilà. Il y a beaucoup d'anonymisation qui viennent de là, en fait.
C'est une simple procédure.
Du fait que les gens disent « Ah ben oui, mais c'est moi qui le fais, donc je mets mon nom ». Et si vous mettez votre nom et pas le nom de votre boîte, nous on va dire c'est des données personnelles, donc c'est anonymisé. D'accord. Donc c'est pas tous les gens qui sont, j'entends ça parfois, on dit il y a des gens qui se cachent derrière l'anonymat. Voilà. Non, l'anonymat c'est le respect de la loi informatique et liberté, et c'est très bien pour plein de gens. Si vous prenez un blogueur, alors évidemment on est en France, on n'est pas en dictature, mais vous imaginez bien que vous prenez un blogueur dans un pays qui n'est pas tendre avec les opposants, qu'enregistre un nom de domaine en .com, par exemple. Bon. Si le .com commence à afficher partout son adresse, son nom, son prénom et son numéro de téléphone, il va peut-être avoir des problèmes. Donc il est très content que le .com anonymise ses données. Mais maintenant, si la police va voir le .com, peut-être pas la police d'une dictature qui n'est pas un
état de droit, je sais pas, moi,
j'ai dit « je veux la lever de l'anonymat ». Bah, peut-être que le .com le fera, mais certainement pas par défaut. Et il y aura des avocats du .com qui diront « est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne peux pas le faire ?»
Ils pourront décider de ne pas le faire.
Bien sûr.
Si j'ai une blogueuse féministe iranienne qui dépose, alors qu'il ne va pas du coup déposer le
.fr. Théoriquement, elle ne pourra pas déposer le .fr, sauf si elle est
en France. Non, en .com par exemple.
Mais si elle vit en France, elle peut le faire. Elle peut enregistrer un .fr.
Et à ce moment-là, vous pourrez dire aux autorités iraniennes, non, je ne vous dirai pas.
Alors ça, c'est à peu près sûr. Il n'y a strictement aucune raison. Il faut avoir un intérêt à agir.
Oui, bien sûr.
L'intérêt à agir, pour lever l'anonymat, je vois pas tellement quel serait l'intérêt à agir. Et d'ailleurs, que ce soit les Iraniens ou les Américains, je veux dire, on est sous .fr. Donc si j'ai des autorités non françaises, voire non européennes, qui viennent demander la levée d'anonymat sur un nom de domaine.
Vous les enverrez balader.
C'est ce qu'on fait déjà, d'ailleurs.
Oui, c'est ce que vous faites. Vous parlez juste très rapidement les chiffres. Donc, on a 4 millions de noms de domaine en France.
Presque.
Presque 4 millions.
Non, 4 millions de domaines en .fr. En fait, il y a beaucoup de noms de domaine qui ne sont pas enregistrés
.fr. Et je ne sais pas, moi, chaque semaine, vous en avez combien? Vous enregistrez combien de noms de domaine chaque semaine, à peu près, pour avoir une idée?
En création, c'est-à-dire en nouvelle création, on est sur un trend en ce moment de 1000-2000 noms de domaine en plus par semaine.
D'accord. Et alors, une dernière question, un peu provocante, mais aujourd'hui, qui utilise encore les noms de domaine avec Google? Est-ce que ça sert encore à quelque chose pour le grand public? Moi, quand je veux aller sur un site, je tape le nom du site sur Google et puis je clique, j'utilise plus le nom de domaine.
Alors en fait, vous l'utilisez. Mais
Google l'utilise. Mais
si votre question c'est qui utilise la barre d'adresse, c'est pas pareil que qui utilise les noms de domaine. Parce que Google, si vous enlevez les noms de domaine, d'ailleurs déjà si vous enlevez les noms de domaine, Google vous y accédez pas parce que c'est Google.fr. Bon, donc tout le monde utilise les noms de domaine. C'est vraiment une infrastructure de base de l'internet. Après, qui s'en sert pour aller chercher, etc. Bon, d'abord, il y a pas mal de gens qui ont des bookmarks. Quand vous faites des bookmarks, ça s'appelle chercher des noms de domaine.
Des favoris.
Oui. Et par ailleurs, oui, effectivement, il y a une montée depuis très longtemps en puissance de... Je confonds la barre Google avec la barre d'adresse. Malgré tout, on fait des études. On voit bien que, par exemple, le .fr n'a pas la même valeur dans le regard des gens en termes de proximité, de confiance, etc., que le .com. Ça veut bien dire que même s'ils ont tapé dans Google au début, quand ils vont aller sur un site et qu'ils le voient en .com ou en .fr,
ça rassure.
Ils ont une lecture de ce que ça veut dire. Si vous allez sur un site .gouv.fr, c'est pas pareil que si vous allez sur un site .xyz. Enfin, je veux dire, donc il y a une valeur derrière ça quand même qui existe. Et moi, je recommande, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais je recommande quand même de regarder assez régulièrement ce vers quoi on va, parce que c'est aussi une manière d'éviter les phishing et c'est une manière d'éviter les arnaques.
Donc c'est une forme de label.
C'est pas une garantie,
mais ça, ça donne une garantie, un indice.
Mais en tout cas, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des signaux faibles. C'est-à-dire que si je veux aller écouter les podcasts de BFM TV et que je suis dirigé vers bfmtv.shoes, je peux me douter que
ça peut-être pas les bons podcasts.
Ça va pas être les bons podcasts. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Maintenant, effectivement, c'est beaucoup plus rapide de passer par un moteur de recherche que de taper tout le nom, et c'est normal.
Pierre Bonis, merci beaucoup d'être venu nous voir dans Métadonnées. On espère que ça a pu éclairer nos auditeurs sur ce que c'est qu'un nom de domaine.
Et merci beaucoup de m'avoir invité.